cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui, pour demain.
Qu'est-ce qui a changé ?
Qu'est-ce qui a changé et surtout qu'est-ce qui va changer pour la justice avec les nouvelles technologies ? Suite au vote l'automne dernier de la loi sur la République numérique, il est maintenant obligatoire de mettre en ligne l'ensemble des décisions de justice rendues sur le territoire français, soit environ 3 millions de décisions par an, de quoi créer une immense base de données qui, une fois triées et analysées, doivent permettre de faciliter le travail de l'appareil judiciaire, lequel pourrait ainsi voir régler l'encombrement structurel dont il souffre. Si la vague numérique a déjà permis une automatisation d'un certain nombre de tâches répétitives, ces données qualifiées de big data offrent d'autres perspectives, pour certains sans limite, au risque d'aller vers une justice automatisée jusque dans ses décisions. Et pourquoi pas une justice prédictive qui pourrait anticiper les délits et les crimes à l'instar de ce qui se passe dans Minority Report.
Test positif pour Howard Marks. Monsieur Marks, au nom de la division pré-crime du district fédéral de Columbia, je vous arrête pour le futur meurtre de Sarah Marks et de Donald Dubin que vous alliez commettre aujourd'hui, 22 avril, à 8h04 du matin.
Non, j'ai rien fait.
C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Benjamin Blanchet, magistrat chargé de mission à l'Union syndicale des magistrats, ancien substitut au parquet financier de Nanterre. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Béatrice Bruguès-Rex, avocate au cabinet Danton, membre de l'incubateur au barreau de Paris et du Conseil de l'Ordre. Bonjour.
Bonjour.
Et puis à vos côtés, Camille Ayri, avocat d'affaires, associé du cabinet Auguste Debouzy et auteur du rapport en février dernier sur l'avenir de la profession d'avocat. Bonjour.
Bonjour.
Également autour de la table, notre chroniqueur, non pas judiciaire, mais du web, Redouane Tella, avec son compte numérique d'un jour d'été. Bonjour Redouane.
Bonjour Didier.
Et comme chaque semaine, nous entendrons Erdir, l'animateur des crypto-parties, ces rencontres entre internautes et experts du web où on apprend à protéger ses données personnelles. Erdir nous donnera ses conseils pour aller sur Tor, ou ce que certains appellent le Deep Web. L'émission est réalisée par Hélène Bisio, avec l'aide aujourd'hui de Henri Béret à la technique. Elle a été préparée par Léa Dupuy-Yenquin et Martin Juré, et elle est mise en musique par Thierry Dupin.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Didier Siamour.
Et pour commencer, Redouane.
I have not always been wrong about the future of events.
Vous avez tenu à nous parler d'un robot.
Oui, alors je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu coller à la thématique et vous parler d'un juge qui aurait eu plus de vis, d'écrous et de boulons que le lavomatique de ma rue. Mais les robots juges n'existent pas encore, alors je vais vous présenter. RIM, c'est un robot qui vient d'intégrer la police de Dubaï et qui patrouille partout dans la ville.
Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats.
Bon, ça, c'est un extrait de Robocop, hein, le film de Paul Verhoeven. Dans la vraie vie, le Robocop de Dubaï, lui, n'a pas le droit de porter une arme.
Ouais, et encore heureux, car pour le reste, Rimsey a de quoi faire peur. Prenons le temps de le décrire. C'est un humanoïde de plus d'1m70 pour 100 kilos, beau bébé. Il porte l'uniforme de la police de Dubaï, képi compris, et il a une énorme tablette tactile au niveau du plexus. Il parle plusieurs langues, dont le français, et les habitants de Dubaï peuvent interagir avec lui en tapotant sur son torse, sur sa tablette intégrée, ce qui leur permet de signaler un délit, de porter plainte ou de payer une amende. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ses yeux, deux petites boules noires qui sont en fait des caméras permettant d'enregistrer tout ce que voit Rimsey. Les vidéos sont ensuite stockées sur les serveurs de la police de Dubaï. Sachant que ce robot est censé se balader dans les rues et qu'il a une capacité d'autonomie de 8 heures environ, imaginez le nombre de visages et d'images qu'il est en train de stocker au moment où l'on se parle.
En fait, c'est Big Brother qui prend les traits de Nono le petit robot.
C'est un peu ça, et ce n'est pas fini. Rimsey est équipé d'un système de reconnaissance faciale. Il est capable de reconnaître n'importe quelle personne qu'il croise et qui est dans sa base de données. Les autorités dubaïotes s'en servent notamment pour retrouver des fugitifs. D'ailleurs, Rimsey est tout à fait en capacité de prendre en filature une personne recherchée et de signaler son positionnement à ses collègues humains qui se chargeront, eux, de l'interpellation.
Alors Redouane Doubaï a déjà annoncé que les robots représenteront 25% des effectifs de la police en 2030.
Et on sait même que la principale mission de cette brigade robotique va être de verbaliser les délits du quotidien. Notre robot policier est en effet doté d'une intelligence artificielle qui lui permet de détecter dans les images qu'il capte ce qui pourrait être assimilé à un délit. Dès lors qu'il le repère, il se précipite sur l'auteur de ce dit délit et il lui propose de payer une amende via la tablette tactile qu'il a entre les bras. Et cela pose un véritable problème éthique. Où est la marge d'appréciation du policier quand celui-ci est un robot? Comment une machine peut-elle juger l'action d'un homme? Et surtout, si l'on accepte l'idée qu'un robot puisse punir un homme sur des délits mineurs, pourquoi ne pas l'appliquer à d'autres types de situations, à des crimes par exemple? Si Rimsey voit un meurtre, pourquoi ne serait-il pas en mesure de le condamner? Pour une machine, quelle différence entre un crime et un délit? Ce n'est qu'une ligne de code qui ressemble à une autre ligne de code. Alors après tout, pourquoi pas se laisser tenter? Cela permettrait d'accélérer le processus judiciaire à vitesse grand V. Rimsey interpelle et dans la foulée, Rimsey condamne. Rimsey est juge et flic à la fois. Rimsey omniscient, Rimsey omnipotent, bref, Rimsey juste flippant.
Alors, mesdames et messieurs, le policier robot qui verbalise, c'est, on peut pas dire que ce soit vraiment nouveau, on pourrait même le comparer au radar sur la route, mais est-ce que ça peut s'appliquer à tous les délits, monsieur Blanchet?
Ben, j'espère que ça ne s'appliquera à aucun délit, parce que c'est une vision assez cauchemardesque que vous nous avez décrite.
Et qui existe.
Oui, qui existe. Naturellement, je connaissais pas Rimsey, mais j'avais naturellement vu Robocop. J'ai longtemps espéré que ce ne soit que de la science-fiction. Apparemment, ça commence à se traduire dans les faits. Un principe très simple, la justice ne peut pas être rendue par une machine. Les infractions ne peuvent pas être constatées par des machines, sauf s'il s'agit de simples contraventions au code de la route, puisque effectivement, vous avez évoqué les radars automatiques, il n'y a qu'une donnée objective à enregistrer, à savoir le franchissement d'une limite de vitesse.
Béatrice Bouygues-Resse, est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver en France, hein, ce genre de machine? Vous qui êtes, vous occupez de l'incubateur du barreau de Paris?
L'arrivée, en tout cas, le secteur du droit est bouleversé en ce moment par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Disons un mot, qu'est-ce que l'intelligence artificielle avant de parler de la robotisation peut-être? C'est le fait d'automatiser des tâches que l'homme fait par son intelligence. Alors effectivement, au sein du barreau de Paris, on mène une réflexion au niveau du barreau pour susciter l'innovation, pour que au niveau du monde du droit et du barreau et des avocats, ils s'approprient ces nouvelles technologies de l'information, ces nouveaux outils qui permettent le développement de l'activité de l'avocat. De là à dire que demain il y aura des robots dans nos activités, c'est une autre histoire.
Et Camille Ayri, vous qui êtes avocat, est-ce que comment on défend un client qui se fait appréhender par un robot dans ce cas-là? On attaque le robot?
Alors, c'est intéressant. Il y a toute une série d'axes. D'ailleurs, dans les pays où ce type de justice commence à faire son apparition, elle n'est jamais complète, mais parfois les algorithmes sont des aides à la décision. Se pose effectivement la question de la loyauté de l'outil qui a été mis à la disposition de l'humain qui va rendre la justice. Donc même dans le périmètre, pour l'instant très circonscrit, hein, d'algorithmes, d'intelligence artificielle qui apportent leur concours, des questions éthiques, des questions d'égalité des armes, des questions de loyauté de l'appareil judiciaire sont déjà soulevées.
Alors, police partout, justice nulle part, hein, clamaient les manifestants en 68. Aujourd'hui, nous parlons de justice de demain, mais avant cela, Call the Police, extrait du prochain album très attendu de LCD Sound System, annoncé pour le 1er septembre prochain. No one here.
suis admiratif quand j'écoute des concours d'éloquence entre jeunes avocats. Non pas parce qu'ils sont plus ou moins éloquents, mais parce que je me dis qu'ils pratiquent un art mort. C'est merveilleux. J'écoute les derniers tenants d'un art défunt. L'éloquence n'aura plus sa place, sauf exception, dans la vie judiciaire. On n'aura pas le temps. Et puis ça ne servira à rien. Pourquoi ? Parce que vous aurez au départ l'avant-procès entièrement traité par voie informatique. C'est déjà le cas. Vous avez ensuite l'échange de conclusions. Vous avez le magistrat qui voudrait être éclairé sur le point 2 de vos conclusions. Du côté de la demande, il faut récommuniquer des pièces plus précises. Bref, tout se passe par ordinateur. Et quant à la visioconférence, c'est l'avenir. C'est un autre monde judiciaire qui s'est ouvert. Alors, on n'y échappera pas. Parce que la massification, l'absence de ressources, fait qu'on ira dans cette direction-là. Ah, la révolution numérique en justice me paraît aussi riche de perspectives et de dangers, d'ailleurs les deux à la fois, mais en tout cas de transformation profonde, structurelle, qu'a pu l'être le passage à l'impression. Parce que il est évident que demain, alors là, déjà aujourd'hui, mais demain encore beaucoup plus, ne sera plus jamais comme hier.
France Inter. C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
C'était l'extrait d'une conférence par un avocat et pas de n'importe lequel, hein, puisqu'il s'agit de l'ex-garde des Sceaux, ex-président du Conseil constitutionnel Robert Badinter. Il exposait ainsi fin 2013 sa vision de la justice de demain au cours d'une cérémonie de remise de diplôme de doctorat en droit à l'université de Poitiers. Une justice ne faisant plus de place donc au débat à l'oral où les procédures passent par les voies numériques, avec une révolution numérique en justice riche de perspectives et de dangers selon Robert Badinter. Perspective peut-être d'une plus grande fluidité pour une institution souvent présentée comme au bord de l'implosion, mais danger de voir une justice entièrement automatisée jusque dans ses décisions qui pourraient être rendues peut-être par une machine. Benjamin Blanchet, vous qui êtes en charge, chargé de mission à l'Union syndicale des magistrats, est-ce que, comme le dit Monsieur Badinter, aujourd'hui et demain, ça ne peut pas être comme hier ?
Nécessairement, parce que les choses changent et on ne peut pas empêcher ce changement. Je pense qu'il a dit beaucoup de choses justes. S'agissant du dépérissement de la parole à l'audience, c'est effectivement une réalité. Aujourd'hui, la plaidoirie de l'avocat, elle est véritablement fondamentale en cour d'assises. Il n'y a pas d'autres exemples où on peut dire que c'est la plaidoirie qui assure en intégralité la défense d'un client. J'ai longtemps siégé dans une chambre économique et financière à Paris. Aucun client n'a été uniquement défendu par une simple plaidoirie. Ils ont tous déposé des conclusions qui étaient parfois très denses, d'ailleurs, de plusieurs dizaines de pages. Je n'ai jamais vu un avocat défendant un client dans un grand procès qui a en plus une connotation technique, puisque le contentieux économique et financier, c'est quand même quelque chose de très sophistiqué, se borner à défendre oralement un client. Alors, ça ne veut pas dire que la plaidoirie est inutile, loin de là, mais l'écrit prend une place de plus en plus importante, parce que c'est l'écrit qui va frapper l'esprit des magistrats.
Béatrice Bruguès-Rex, vous qui êtes donc coordinatrice de l'incubateur au barreau de Paris, quelles sont aujourd'hui les principales innovations qui sont apportées par les nouvelles technologies ?
Oui, alors j'ai le plaisir de coordonner cet incubateur avec un autre membre du Conseil de l'Ordre que je tiens à saluer, qui s'appelle Benjamin Pitchot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein de l'incubateur du barreau de Paris, c'est une vraie réflexion qu'au niveau du barreau l'on mène pour susciter l'innovation, qui est une véritable culture au niveau du barreau qui se développe et que les confrères s'approprient ces nouveaux outils d'information. Alors, on a parlé de la loi Lemaire sur...
On y reviendra tout à l'heure.
D'accord,
sur les publications des lunettes.
Oui. Sur l'incubateur, donc, il y a une volonté, en fait, de diffuser auprès des confrères, dans le cadre de leurs activités, les jeunes confrères qui sont aussi des entrepreneuriats, qui s'approprient donc ces nouveaux outils, qui sont des aides à leur activité au quotidien. C'est-à-dire qu'on va y venir sur la justice prédictive. La technologie de l'information va permettre aux avocats de gagner du temps, de gagner en plus-value, et de justement d'offrir une offre de services aux justiciables plus efficace grâce au déploiement de ces technologies de l'information.
Et peut-être pour résister à une certaine concurrence, hein, il y a quand même un exemple par exemple de start-up qu'on va voir que certains connaissent, qui s'appelle eJust, une plateforme d'arbitrage 100% numérique pour régler les litiges. On écoute Amiel Feldman, le fondateur de eJust.
eJust est un centre d'arbitrage. Nous fournissons un service de juridiction Et nous, on nomme un arbitre qui ensuite prend connaissance des faits, mène son investigation, puis rend une sentence, un jugement, qui a le même effet, ou quasiment, qu'un jugement étatique. Et du coup, ça remplace complètement le rôle du tribunal, et vous pouvez passer directement à l'exécution. L'entier de la procédure est dématérialisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment créé un palais de justice virtuel avec des salles d'audience virtuelles, où la plupart de la procédure se fait de manière écrite, mais où il peut aussi avoir lieu à des visioconférences enregistrées sur la plateforme, tout dans cet environnement sécurisé, et ce qui permet en fait aux parties et à l'arbitre d'échanger ensemble dans ces salles d'audience. Aujourd'hui, par exemple, on a la SNCF Transilien qui a intégré la solution e-just pour l'ensemble de son contentieux avec ses usagers. Donc ils ont le choix, s'ils ne sont pas contents, d'aller devant un juge. Mais bon, il faut passer par un avocat, c'est long, c'est assez compliqué, ou passer devant e-just, c'est-à-dire utiliser la plateforme dématérialisée et d'introduire leurs réclamations et suivre le procédé. On est le tribunal et on est le greffe. On fournit un service d'assistance et juridique et technique à nos clients, qui sont les parties, et à notre arbitre, qui est le fournisseur de service, mais celui qui a la force de contraindre par sa sentence, c'est l'arbitre. Et c'est un indépendant, donc c'est pas nous. Le rôle du juge reste absolument fondamental pour ce qui est de l'établissement de la jurisprudence et l'interprétation générale de la loi. Et aussi, le juge intervient en supervision de l'activité des arbitres, puisqu'il y a le recours en annulation possible sur une sentence arbitrale. Par contre, les cas peuvent être traités en quantité très importante pour des montants et dans des temps qui sont efficients et qui correspondent, sont proportionnels en fait aux besoins. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les décisions économiques se prennent en minutes et les transactions se font en secondes. Aujourd'hui, on a encore une justice en temps réel avec des moyens qui datent du début du XXe siècle.
Camille Héry, quand vous entendez ce discours aujourd'hui de cet entrepreneur de start-up, vous dites que une partie de l'activité des avocats est menacée?
Oui, c'est-à-dire que l'avocat doit changer sa perception de la justice parce que le rapport à la justice change avec l'apparition des nouvelles technologies. D'abord, vous avez un phénomène de déjudiciarisation qui est appelé de ses voeux par le législateur aussi. La récente réforme du droit civil en France invite les parties à un contrat à essayer de privilégier des solutions amiables de la conciliation plutôt
comme on
que de saisir
là, avec un arbitre.
Exactement, plutôt que de saisir. Donc on est de plus en plus invités. Les magistrats, les juges nous invitent, une fois qu'on les a saisis, à essayer de trouver un espace pour de la conciliation. Donc nous sommes emmenés vers l'extérieur des tribunaux pour essayer de régler les sujets. Et effectivement, les plateformes comme e-just ou comme d'autres, qui permettent de réunir rapidement et de manière ergonomique les parties face à un différend pour essayer de le baliser et d'y apporter une solution, vont se développer. C'est notre responsabilité à nous, avocats, l'incubateur y participe, tous les barreaux, d'essayer de donner à l'avocat un rôle nouveau aussi, de médiateur, de conciliateur, d'arbitre, pour essayer justement d'aller apporter sa déontologie, son savoir-faire, à ce type de règlement alternatif des conflits. Et ça, donc, c'est un phénomène que le numérique accentue aujourd'hui.
Benjamin Blanchet, on sait qu'il y a des problèmes aujourd'hui d'encombrement, souvent dans les tribunaux. Est-ce que ce genre de solution qui privilégie l'arbitrage, alors ça aurait pu se faire sans le numérique, mais en plus avec le numérique, qui permet, semble-t-il, d'accélérer les délais, est-ce que pour vous, c'est une manière, justement, de régler une partie du problème ?
Une partie seulement. Il est vrai que c'est un mode de règlement qui se généralise sous l'impulsion du législateur et aussi parce que la justice, manquant de moyens, et on peut pas dire que ce soit d'ailleurs forcément illégitime, taxée d'une lenteur qui est excessive, qui ne correspond pas aux attentes des citoyens, qui ne correspond pas non plus au rythme de la vie économique, et que donc il faut trouver des solutions qui soient alternatives. Cela étant, l'arbitrage, ça peut être une excellente, ce n'est pas une notion nouvelle, l'arbitrage.
Non.
Elle figure déjà dans le code de procédure civile. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut manier avec, à mon avis, discernement, que toutes les parties aient bien conscience de ce que cela implique, même s'il y a un recours possible au juge avec le recours en annulation. Il faut quand même que cette justice arbitrale ne supplante pas toute justice étatique.
Alors la question, quand on entend ça, qui se pose également, c'est celle naturellement du conflit d'intérêts. Parce qu'on a bien compris que ceux qui adoptent ces plateformes, donc forcément payent un service également. Est-ce qu'à un moment donné, on risque pas d'avoir un conflit d'intérêts ? Béatrice Brugues-Reig, vous qui vous occupez de l'incubateur du barreau de Paris, est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question comme ça de ces nouvelles formes juridiques qui sont en train de se mettre en place, comme le judiciaire qui se met en place, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné des risques ?
Alors, l'incubateur est très clair là-dessus, nous jouons la complémentarité. On ne joue pas la concurrence, on joue la complémentarité avec ces nouveaux acteurs sur le marché. C'est-à-dire que justement, on essaie d'insuffler aux confrères une volonté de partenariat avec ces Legal Tech qui offrent des nouveaux services et avec lesquels on peut travailler de façon à ce que notre valeur ajoutée, comme je le disais tout à l'heure, soit accentuée et accroître nos compétences là-dessus. Quoi.
On parle de Legal Tech, c'est ça ?
Oui.
Legal Tech, donc l'ensemble de ces technologies qui interviennent sur le secteur. Camille Ayri, vous vouliez préciser ?
Oui, on appelle souvent les Legal Tech l'ensemble de ces propositions, de ces solutions, qui sont des applications parfois, des sociétés qui ont créé des offres destinées à la fois à répondre à un besoin en droit, à un besoin en justice. Et donc c'est tout cet écosystème qui s'appelle aujourd'hui des Legal Tech. Voilà, donc il y a beaucoup d'initiatives.
Ce sont les nouveaux acteurs sur le marché, dont certains considèrent pour les avocats qu'ils peuvent être une menace et que ce n'est pas le bon paradigme, à mon avis, en tout cas, de le voir comme une menace. Mais au contraire, en tout cas, au niveau de l'incubateur du Barreau de Paris, on travaille au contraire pour tirer de la valeur ajoutée et de partenariat avec ces Legal Tech.
Mais ça veut dire, entendons bien, pour que les auditeurs comprennent, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des nouveaux acteurs qui rentrent dans ce champ, oui, qui ne sont pas, a priori, des gens qui viennent justement du secteur de la justice.
Effectivement, ce sont des entrepreneurs qui peuvent être des non-avocats. Nous, on essaye de développer une culture de l'initiative chez les avocats pour qu'eux-mêmes prennent ces initiatives. On a pris un peu de retard, on est en train de le rattraper. En revanche, derrière, l'exercice du droit doit être mené par des avocats. Et donc, ce sont souvent des plateformes de mise en relation. Et donc, c'est à nous d'incarner cette offre nouvelle. Mais elle va avoir effectivement des impacts sur le recours à la justice. Mais elle va aussi avoir, et il faut en parler, via notamment les outils de justice prédictive, un impact sur le rapport que vous entretenez avec votre procès, avec le risque. Parce que c'est toute la nature du risque judiciaire qui est bouleversée par l'apparition des outils prédictifs.
On va en parler dans la deuxième partie d'émission. Alors, sur quelle échelle juger un homme ? Selon quels critères, quelles normes ? C'est ce que se demande sur France Inter le trop rare Julien Bert dans ce titre de 1999.
Qu'il est innocent ?
Je n'en sais rien.
Et vous avez assisté au procès comme nous tous, vous savez que c'est un assassin dangereux, c'est évident. Ça a été prouvé devant la cour de 12 façons différentes. Voulez-vous que je vous les énumère ?
Non.
Enfin, que voulez-vous ?
Je veux seulement en discuter.
Mais discuter de quoi, bon Dieu ? On est 11 à le croire coupable, aucun de nous ne discute la chose si ce n'est vous.
J'ai quelque chose à vous demander. Croyez-vous à ce qu'il raconte ? Je ne sais pas si j'y crois ou non, je pense que non.
Alors comment votez-vous contre nous ?
Tout le monde votait coupable, alors j'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant.
Mais qui a dit que c'était facile ?
Personne.
Bon, vous pensez que j'ai voté vite ? Ben, je crois que ce garçon est coupable. Je ne changerai pas d'avis, discuteriez-vous pendant 100 ans ?
Qui parle de vous faire changer d'avis ? Ai-je dit ça ? C'est la vie d'un homme qui se trouve en jeu ici. Comment pouvez-vous en décider en 3 minutes ? Supposez qu'on fasse erreur.
Qu'on fasse erreur ? Supposez que cette bâtisse s'écroule ? Non, on peut tout supposer dans la vie, n'importe quoi.
C'est vrai.
Mais c'est pas une question de temps. Supposons qu'on se décide en 5 minutes et après.
Voici la célèbre scène d'un film que tout magistrat ou tout avocat, et pas seulement les cinéphiles, hein, a dû regarder au moins une fois dans sa vie, 12 hommes en colère, un film de Sidney Lumet avec notamment Henri Fonda, sorti il y a maintenant 60 ans et qui pose cette question sur la justice humaine. Doit-on risquer de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent ? Au XXIe siècle, à l'heure d'une justice qui se transforme de plus en plus avec le numérique, la machine fera-t-elle justement de la place au doute ? Depuis le 7 octobre 2016, date du vote de la loi sur la République numérique, dite la loi Lemaire, qui oblige à la mise en ligne des décisions d'institutions judiciaires, nous disposons d'une immensité de données. Avec l'intelligence artificielle, ouvre la voie à de multiples utilisations, dont la justice prédictive. Nous avons rencontré ainsi la start-up Predictis, fondée il y a 2 ans par 2 élèves avocats et 2 ingénieurs en informatique qui ont développé une application. Écoutons l'explication de Louis Larré-Chahine, directeur général de Predictis.
L'objectif de Predictis, c'est d'améliorer le fonctionnement du service public de la justice et de rendre plus transparent, plus prédictible ce qui risque de se passer lorsqu'on fait un contentieux. Concrètement, on développe un algorithme qui est capable de lire des dizaines de milliers de décisions de justice et d'en extraire des informations clés et de les restituer notamment après un traitement statistique. Ça s'adresse aux professionnels du droit et vous êtes capable sur cette plateforme, en quelques secondes, de calculer les chances de gagner un procès, les indemnités qui vont avec et d'avoir un tri des arguments qui peuvent permettre de faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Donc on est capable d'optimiser la manière dont on va aborder un procès, de savoir s'il y a un endroit qui est plus intéressant qu'un autre pour assigner et donc potentiellement de négocier avec beaucoup plus de force, puisque savoir ce qui risque de se passer, c'est aussi la meilleure arme pour pouvoir négocier. Par exemple, ici, on demande un contentieux lié à l'amiante, qui s'est produit depuis 2012 pour avoir un peu de fraîcheur, devant les cours d'appel pour avoir un résultat qui est solide juridiquement, avec une perturbation dans les conditions d'existence. Donc on voit qu'ici, il y a plus de 4500 résultats. On pourrait aller les lire et en extraire de l'information à la main, mais ça prendrait énormément de temps. Ou alors on peut demander à l'outil de chercher par exemple le préjudice d'anxiété. Et ici on se rend compte qu'on a 54% de chances d'obtenir un préjudice d'anxiété pour une indemnité moyenne de 7 695 euros.
Alors avec Predictis, on calcule donc ses chances de gagner un procès, c'est un peu ça Camille Ayri, vous l'utilisez vous cet outil dans votre cabinet ?
Alors on a effectivement établi un partenariat avec les différents produits qui existent aujourd'hui. Alors on a effectivement le sujet de l'assiette des décisions, puisque toutes les décisions ne sont pas remontées. Et puis par ailleurs ce sont des produits qui sont en développement. Donc ça nous permet dans le cadre de ce partenariat de faire des propositions sur des aspects, des sujets, une ergonomie dont nous avons davantage besoin et qui permettent justement aux développeurs d'affiner leurs produits. Donc c'est un outil intéressant. Je pense qu'il est plus pour l'instant encore orienté sur la quantification du préjudice que sur les chances de succès du procès. Mais néanmoins, lorsqu'on va avoir de plus en plus de décisions qui seront traitées par ces algorithmes, lorsqu'on pourra intégrer des critères de plus en plus précis, donc rentrer vraiment dans la granularité des faits, on aura un outil d'affinement qui constituera un changement du réel. C'est-à-dire que dès l'instant où vous entrerez un certain nombre de paramètres, bah vous aurez quand même une lecture très très précise, très forte, de vos chances de succès. Et dans le rapport qu'on entretiendra avec son contradicteur, ça déterminera quand même assez significativement les suites du procès. Donc ça soulève toute une série de questions sur justement la déjudiciarisation, le rapport au risque et notamment aussi le travail des assureurs. Et c'est pas étonnant que ce soit aujourd'hui les grandes compagnies d'assurance qui investissent le plus dans les outils de justice prédictive.
Béatrice Bruguès-Rex, quand vous entendez parler de Predictis que vous connaissez bien, puisque vous êtes également partie prenante dans ce projet qui est en grand développement, vous dites quoi ? Que la prédiction, c'est l'avenir aussi ?
C'est un outil très intéressant. Au niveau de l'incubateur, en tout cas, on veut que les confrères, au niveau du barreau, se familiarisent avec ces outils. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des aides dans notre activité au quotidien. Pour être dans une matière qui s'y prête particulièrement, je fais du droit du travail, c'est une matière jurisprudentielle. Le fait d'avoir un outil qui permette justement de faire une analyse de jurisprudence, c'est vraiment une aide dans l'appréciation du risque. Maintenant, il faut être clair. L'appréciation du risque, c'est une activité que l'avocat fait au quotidien. Donc, elle va être boostée et accélérée par ces outils qui vont permettre d'affiner davantage ce risque. Cela étant, ce qui est important, c'est que l'avocat doit s'adapter pour intégrer Predictis, effectivement, et au cabinet, on a ce partenariat avec Predictis qui permet aux jeunes collaborateurs de se familiariser dans l'outil, de faire remonter des informations pour que l'algorithme évolue et soit le plus performant possible.
Mais ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en fait, l'avocat, plutôt que de passer des heures et des heures à éplucher toute la jurisprudence, il va se connecter et ça va lui permettre d'avoir rapidement
une synthèse. Ça va lui permettre d'affiner ce qu'il fait déjà au quotidien. Maintenant, il faut être très vigilant, c'est-à-dire que ça reste un résultat. Il faut que l'avocat garde sa plus-value et sa valeur ajoutée dans l'appréciation du résultat que va lui donner la machine. Autrement dit, plus il y aura de technologie, plus on aura besoin d'avocats et de discernement de l'analyse de ce résultat. Donc il y a une forme de relativité du jugement de l'avocat, et c'est là où on aura besoin, et c'est toute la plus-value de l'avocat, par rapport au résultat que lui donnera la machine. Et il y a un phénomène, justement, par rapport à la machine, c'est l'effet performatif. Plus vous avancez un résultat, plus vous aurez envie que ce résultat, et dans la conciliation, dans l'approche, se fasse. Donc, c'est un bon outil. En tout cas, dans mon domaine, c'est un vrai facteur développement. C'était intéressant, on a créé un comité national d'éthique de ce point de vue-là, et toute notre déontologie, qui est notre colonne vertébrale et notre identité, est nécessaire de ce point de vue-là. Mais il faut aussi relativiser.
Benjamin Blanchet, vous qui êtes à l'Union des magistrats, et c'est syndicale des magistrats, est-ce que vous pensez que cet outil est un progrès ou pas pour la justice ?
C'est pas quelque chose d'entièrement nouveau. Depuis l'apparition du site Légifrance, par exemple, depuis donc 1999, vous avez la possibilité, en introduisant des mots-clés, de retrouver un certain nombre de décisions qui se rapportent à ces mots-clés. Donc vous avez déjà la possibilité d'identifier un certain nombre de décisions de jurisprudence qui vous indiquent quel est l'état du droit jurisprudentiel. Vous avez dans les juridictions des logiciels analogues qui vous permettent, par exemple, de retrouver tous les arrêts de la Cour de cassation qui vont apporter une solution à la difficulté juridique que vous avez pu identifier en étudiant le dossier qui vous est soumis. Donc non seulement c'est un outil qui est indispensable au magistrat, à l'avocat, parce que, faut se souvenir quand même qu'à l'époque, il fallait hanter les bibliothèques pour trouver un certain nombre de références qui nous conduisaient vers d'autres ouvrages pour arriver à débusquer quelques décisions.
Oui, sauf que,
c'était un exercice partiel.
Sauf que cet outil peut aller très loin. On peut, par exemple, pour un certain nombre de dossiers, aller choisir la juridiction. On va estimer que le juge peut
là,
être...
C'est un autre stade. La crainte, c'est de pouvoir définir des statistiques judiciaires nominatives. C'est-à-dire que on puisse, en recoupant un grand nombre de décisions rendues par un magistrat qui aurait été identifié, donc ça suppose que les décisions qu'il a rendues seraient rendues publiques de manière nominative, pour que l'on puisse, par exemple, s'agissant d'un juge aux affaires familiales, dire que celui-ci est plus favorable à la mère qu'au père, ou plus favorable au père qu'à la mère, qu'il estime que la résidence alternée, c'est une chose tout à fait habituelle, qu'il a l'habitude de promouvoir, ou au contraire qu'il refuse. Vous avez la possibilité également d'identifier, alors je schématise un peu, mais des juges qui sont répressifs, d'autres qui le sont moins. Est-ce qu'on serait plus répressif dans telle région de France ou moins ailleurs ? Ça, c'est une vraie difficulté, parce qu'effectivement, si vous établissez ce type de statistiques individualisées, vous avez un risque qui est celui de pouvoir choisir son juge et de rompre l'égalité des citoyens devant la loi. Ça, c'est une vraie difficulté. On n'en est pas encore là, je l'espère, mais effectivement, on peut y être finalement assez rapidement, surtout si ce type de société peuvent bénéficier un jour de ces données qui seraient nominatives.
Alors la question toujours derrière, c'est de se demander si l'intelligence artificielle peut aider les hommes à juger et non pas juger à la place des hommes.
Imaginez un monde sans meurtre.
J'ai perdu mon meilleur ami.
J'ai perdu ma tante.
J'ai perdu mon papa.
J'ai perdu mon père.
J'ai perdu ma femme.
Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu 3. Les précognitifs. En seulement 1 mois, dans le cadre du programme Précrime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%.
Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture.
Ils voulaient me violer.
J'allais me faire poignarder.
Ici. En 1 an, Précrime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation.
Depuis 6 ans que notre petite expérience a été menée à bien, il n'y a pas eu un seul meurtre.
Et maintenant, Précrime peut fonctionner pour vous.
nous voulons être absolument certains que chaque citoyen américain peut compter sur l'infaillibilité totale du système et que ce qui assure notre sécurité peut aussi garantir notre vie et notre liberté.
Alors, quand on entend justice prédictive, hein, difficile de ne pas penser à Minority Report, ce film de Steven Spielberg, adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick, qui décrit un système en 2054 capable de prédire les crimes et d'arrêter les futurs coupables avant qu'ils ne les commettent. C'est la justice de demain, selon vous, Béatrice Dugas-Rex?
La justice prédictive, la justice de demain? En tout cas, elle fera partie de notre environnement et de notre écosystème. Il faudra l'intégrer dans notre mode de fonctionnement. Est-ce que pour autant les magistrats, effectivement, ont un regard, ça pose des questions sur l'harmonisation de leurs décisions et la publicité qui va être donnée aux décisions de justice. Je comprends que ça pose question au niveau de la magistrature. En tout cas, d'un point de vue versus avocat, c'est une aide au développement, c'est une aide à la prise de décision, comme on le disait. Il y aura peut-être sans doute davantage de conciliation et de transactions. C'est un élément positif.
Camille Ayri, pour vous ?
Il va y avoir un consensus de place autour de 2-3 offres. Il y a aujourd'hui beaucoup de propositions, mais à un moment, il y aura 90% du marché de la prédiction judiciaire et juridique qui seront tenues par 2-3 sociétés qui établiront un consensus scientifique. Donc, leur parole portera. Et on ne pourra pas s'exonérer de l'existence de cette parole. Donc, il n'y aura pas de décisions qui seront rendues par des robots, tout comme il n'y aura pas de robot qui plaidera. Mais ça peut effectivement devenir une aide à la décision. Et j'attire votre attention sur le fait, vous le savez certainement, que, par exemple, aux États-Unis, des questions liées à la récidive et à la possibilité de récidive sont aujourd'hui traitées à l'aide d'outils prédictifs qui intègrent des éléments de personnalité de la personne poursuivie et qui proposent des solutions.
Le fameux logiciel Compass qui a déjà été épinglé.
Exactement. Donc ça pose la question de la loyauté de ce moyen de preuve. Et donc là, on voit qu'on n'est pas dans la décision finale, mais quand même, il y a une très forte influence. Et ça, c'est la question éthique centrale et la question de loyauté judiciaire autour de ces questions.
Benjamin Blanchet, pour vous, l'avenir, il passe par la prédiction de la justice?
Ce sera forcément quelque chose qu'il faudra prendre en considération. Tant que ça reste une aide pour l'avocat, pour le magistrat, c'est quelque chose qui est bienvenu. Parce qu'encore une fois, compte tenu de l'augmentation vertigineuse des contentieux civils, commerciaux et pénaux, nous n'avons pas la possibilité de nous passer de ce type d'instrument. Parce qu'effectivement, il est absolument fondamental que les décisions de justice soient cohérentes. On ne peut pas être jugé différemment à Lille et à Marseille. Il faut donc que l'on puisse suivre une jurisprudence claire. Alors naturellement, les juges restent souverains. On n'est pas aujourd'hui en droit anglo-saxon. Vous savez que c'est la culture du précédent. Donc on peut tout à fait décider de ne pas respecter une position de la Cour de cassation. Mais il est quand même, à mon sens, bien que le citoyen puisse tout simplement prévoir l'état du droit. Mais c'est quelque chose d'assez banal ce que je dis, parce que la loi, naturellement, elle est écrite. Le règlement aussi. Les infractions, elles sont connues à l'avance. C'est le principe de l'égalité des délits et des peines. Donc, il est normal également que l'application qui a été faite de ces textes soit connue, soit prévisible pour le citoyen. Par contre, on ne peut pas, et j'espère qu'on n'acceptera jamais, que ce soit des machines qui rendent la justice à la place des êtres humains. Parce que si c'est le cas, on aura véritablement changé de régime.
Alors pour finir, on vous emmène dans une crypto-partie, ces rencontres où on apprend à éviter de laisser derrière soi trop de traces sur le net. Mais France Inter vous emmène dans une crypto-partie radiophonique avec Erdir, l'un des animateurs de ces rencontres, pour qui ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on doit tout montrer. Et aujourd'hui, Erdir nous parle de Tor.
Tor, the onion router en anglais, qui veut dire le routage en oignon. Ça fonctionne exactement comme Internet, mais c'est fait par d'autres gens qui font Internet. C'est-à-dire que ça peut être vous, ça peut être moi. Pour expliquer Tor, il faut expliquer un petit peu Internet. Comment fonctionne Internet ? C'est juste des ordinateurs qui sont connectés les uns aux autres, qui se parlent en programme machine et qui se répondent. Tor, lui, n'est pas régi par des organisations, n'est pas régi par des États, mais est régi par des gens qui sont passionnés d'Internet ou qui ont juste envie de partager cet état d'esprit qui est Tor. On parle très souvent de Tor à Tor. On dit très souvent le darknet, le deep web. On utilise très souvent ces termes-là péjorativement.
Pour dire qu'on y retrouve tout ce qui est armes, drogue, racisme, pornographie, en
etc.
libre accès.
Tout à fait, en libre accès. Alors que vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Mais c'est vrai que très souvent, on pointe du doigt ces effets-là parce que justement, ça offre une couche de protection. C'est-à-dire que quand vous vous connectez avec le navigateur Tor, lui, va se connecter à trois nœuds. Un premier qui va se connecter à un deuxième, qui va se connecter à un troisième, qui ne sont pas dans le même pays. Donc le premier ne peut pas être dans le même pays que le deuxième, et le deuxième ne peut pas être dans le même pays que le troisième. Ce qui complique en fait la navigation. Parce que vous vous connectez sur l'ordinateur 1 de Tor, mais le site internet que vous allez visiter avec Tor, lui va voir seulement l'ordinateur numéro 3 auquel votre système va être connecté. Et donc, vous allez pouvoir vous faire passer pour quelqu'un qui habite en Italie ou au Canada ou ailleurs dans le monde. Et il est donc très difficile de vous repérer et de savoir d'où est-ce que vous venez. Et ça, c'est l'avantage de Tor.
Alors, l'avantage pour qui ? Ça veut dire quand même que si j'utilise Tor, j'ai des choses à cacher ?
Peut-être que vous êtes journaliste, que vous faites de l'investigation. Peut-être que vous avez juste envie de vous promener sur Internet sans que tout le monde sache qui vous êtes. Et d'ailleurs, ça a des avantages aussi de passer par Tor. Ça peut parfois vous trouver des billets d'avion moins chers. Certains sites, en fait, ne vous connaissent pas. Vous n'avez jamais fait de recherche de billets d'avion. Donc, ils n'ont pas en mémoire que vous avez cherché un billet d'avion pour telle ou telle destination. Donc, ils vont vous proposer les prix les moins chers. Alors que si vous passiez par votre Chrome ou votre Firefox habituel, là, ils vous diraient des prix exorbitants. Mais comme leur algorithme fonctionne avec les numéros d'adresse IP des gens, etc., ils vont vous dire « Oh, mais c'est une nouvelle personne, je ne la connais pas, donc on va l'attirer. » On va lui proposer les moins chers.
Alors, pour celui qui va utiliser pour la première fois, comment ça se passe ? Comment il a accès à cet univers ?
Comment on a accès à Tor ? On va pouvoir le trouver très vite sur Google et vous allez pouvoir l'installer comme vous installez n'importe quel navigateur. Il va juste vous dire « lancer l'exe » et hop, c'est parti. La première fois que vous vous connecterez à Tor, vous aurez quelques petites étapes où il vous dit comment ça fonctionne, quels sont les bons usages et les mauvais usages de Tor. Et d'ailleurs, si vous faites un mauvais usage de Tor, il va vous le dire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez en mode plein écran votre navigateur, vous êtes plus facilement traquable sur Internet. Parce qu'on va savoir quelle est la résolution de votre écran, quels sont les plugins que vous avez installés, etc. Et donc, on va savoir qui vous êtes. Tor va vous prévenir quand vous aurez une petite manie qui peut être détectée très facilement. Petite anecdote très rigolote. Savez-vous qui a développé Tor ? Eh bien, le gouvernement américain, figurez-vous. Parce qu'ils avaient besoin de communiquer avec leurs espions dans le monde entier, mais ils avaient besoin de l'utiliser de manière chiffrée, de manière sécurisée, pour que ces espions ne soient pas découverts. Donc, ils ont développé Tor et ont un peu laissé ce logiciel-là à la communauté de gens. Et aujourd'hui, le premier gros donateur à la Tor Foundation, à la fondation de Tor, c'est le gouvernement américain.
C'est pour aujourd'hui ? Ou pour demain ? Crypto-party.
Je ne sais pas s'ils iront se balader sur Tor. En tout cas, merci à nos invités. Benjamin Blanchet, magistrat chargé de mission à l'Union syndicale des magistrats. Béatrice Bruguès-Rex, avocat au cabinet Danton et coordinatrice de l'incubateur au bureau de Paris. Et Camille Ayri, avocat d'affaires associé au cabinet Auguste Debouzy et auteur du rapport en février dernier sur l'avenir de la profession d'avocat. On se quitte sur la bande originale du film Minority Report, dont vous avez pu entendre quelques extraits au cours de cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. Vous nous retrouverez non pas demain, mais samedi prochain, pour parler de transhumanisme, d'hommes augmentés. Bon week-end à tous, pensez à vous déconnecter, mais restez branchés sur France Inter.